l'administration sécuritaire au nord Kivu, l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni se dit préoccupé par la résurgence ces dernières semaines des tueries des civils dans la région de Beni. Dans une déclaration faite hier mardi à la presse, Monseigneur Paluku Sipuli Melchisedek dénonce ce qu'il qualifie d'incapacité des députés et sénateurs de Beni, Butembo et Lubero de porter la voix de la population de la région face à cette situation. De son côté, la société civile affirme que depuis novembre dernier, au moins 500 civils ont été tués dans la région par les ADF. Comment analyser cette résurgence de l'insécurité dans cette partie du pays? Que faire pour établir la paix à Beni? C'est notre thème de ce soir. Participe au débat Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Monsieur Matesso, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Windon Zaki, député national élu du Nord Kivu, élu du Nord Kivu, il est cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamuka. Windon Zaki, bonsoir.
Bonsoir.
Edith Epiteki, ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Monsieur Epiteki, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, madame Kelly.
Vous êtes nombreux à réagir au thème de ce soir, vous, auditeurs des Radio Okapi. C'est le cas de Blaise Ndaliko, l'évêque a totalement raison. On ne sait vraiment pas ce que font les députés à Kinshasa. Frédéric Imba, tant que l'on ne connaît pas les vraies motivations des agresseurs, il est difficile d'y mettre fin. Merci de nous suivre à Beni au Nord Kivu sur la 92.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni se dit préoccupé par la résurgence ces dernières semaines de tueries des civils dans la région de Beni. Il a dit devant la presse hier mardi, Monseigneur Paluku Sipuli Melchisedek dénonce ce qu'il qualifie d'incapacité des députés et sénateurs de Beni, Butembo et Lubero de porter la voix de la population de la région face à cette situation. Papi Martial Mukeba pour le détail.
L'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni se demande d'abord si les tueries des civils qui durent depuis 6 ans dans la région de Beni prendront un jour fin.
Ça se fait à une grande ampleur et moi j'ai l'impression que cela ne finira pas. Il y en a qui ont trouvé ça comme un job de tuer leurs frères et leurs sœurs de cette manière-là. Moi je me demande s'ils ont encore un cœur. Mais je crois que ce sont des gens qui ne se possèdent plus mais qui sont possédés par autre chose.
Puis, Monseigneur Paluku Sikuli Melchisedek dénonce également ce qu'il qualifie d'incapacité des députés et sénateurs de Beni, Butembo et Lubero à porter la voix de la population dans les institutions chargées de gérer ces questions.
Tous ces élus qui sont partis d'ici, qui connaissent la situation, qui en entendent parler, pourquoi aujourd'hui ils ne parlent pas d'une même voix tous dans les assemblées provinciales, nationales, les députés et les sénateurs? Pourquoi ils sont incapables de dire « chez nous ça ne va pas » Qu'ils le disent sans avoir peur.
Selon les sources de la société civile, depuis novembre dernier, au moins 500 civils ont été tués dans la région de Beni dans différentes attaques ADF. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papimukeba pour tous ces détails. Edgar Matesso, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Comment vous analysez les propos de l'évêque Palou, de Monseigneur Paluku Sikuli, évêque du diocèse catholique de Butembo Beni, sur la situation sécuritaire à Beni?
Oui, bien merci. Même si je n'ai pas bien capté, je comprends la thématique sur laquelle nous sommes en train de débattre. En effet, je vais d'abord saluer les co-débatteurs qui sont déjà avec nous. Je voudrais aussi présenter mes condoléances aux compatriotes de Beni qui ont perdu leurs frères par le massacre, mais aussi par l'insécurité au niveau de Butembo Beni et au niveau du Nord Kivu en général. Tout d'abord, madame, il faudra situer la sortie médiatique de l'évêque à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que Monseigneur Sikouli, c'est un pasteur qui gère un diocèse le plus touché par les massacres, par les tueries, par l'insécurité, et qui est en train de gérer un peuple victime d'un génocide, comme nous l'avons toujours dit. Le deuxième aspect, il faut considérer que Monseigneur l'évêque, c'est également un citoyen congolais, de surcroît un électeur qui a donné sa voix d'élection sur base d'un discours de campagne avec des promesses sur la sécurité et la paix dans la région. Et c'est sur base de ce deuxième aspect que Monseigneur Sikouli Paluku Melkisedeki est en train de faire l'analyse, comme tout le monde, à voir les degrés de l'évolution des tueries dans la région. Il est préoccupé par le fait de voir comment, en dépit de toutes les promesses des députés, toutes les promesses du président de la République, les gens continuent à être tués, les gens continuent à manquer la sécurité et la paix dans cette province. Tout d'abord, il faut se poser la question de savoir où est-ce que la situation bloque, où se trouve le blocage. Parce que le chef de l'État a promis de donner les moyens, a promis remplacer les hommes, a promis donner tout ce dont on a besoin pour pacifier la région. Et les députés du Nord Kivu, et de manière particulière ceux de Butembo et ceux de Beni, sont arrivés dans la région avec le ministre de la Défense pour lancer les opérations dites de grande envergure. Mais malheureusement, quand bien même nous connaissons à quel niveau ça avance, mais les gens continuent à être tués. Et les députés n'ont pas pu rendre compte à la population, à leurs électeurs, pour que les électeurs comprennent à quel niveau il se trouve les blocages. Le deuxième aspect, c'est que les députés qui ont accompagné ces programmes, ces opérations Sokola 1, est-ce qu'ils ont eu le temps d'évaluer pourquoi les gens continuent à être tués pour qu'ils puissent être en mesure de faire pression auprès du ministre de la Défense et auprès du président de la République pour recouvrer la promesse du chef de l'État et même le programme du premier ministre dans le cadre de la pacification de Beni pour que la population vive dans la culture. Un autre aspect, c'est le compte que doivent rendre les députés et les sénateurs de la région. C'est, je veux rappeler par exemple que à date du 16 janvier 2020, le député Moïse Ndrangi avait tenu une conférence de restitution à Butembo où il est en train de dire à la population que ceux qui étaient à Beni ne sont plus des djihadistes, c'est le point de vue de plusieurs personnes, mais plutôt des gens qui sont à la suite d'une balkanisation, des gens qui cherchent à déstabiliser les communautés locales pour balkaniser le pays. Mais jusque-là, on ne sait plus à quel niveau il est en train de mener les plaidoyers pour que ces balkanisateurs, comme on peut le dire, soient mis hors d'état de nuire. Et justement,
signifie que vous avez l'impression que les députés et sénateurs élus de Beni Butembo Lubero ne jouent pas leur rôle?
Oui, en fait, même s'ils seraient en train de faire leur rôle, on sent qu'il y a blocage, mais ils ne veulent pas le dire à la population. C'est ça justement, parce que ils devraient dire à la population à quel niveau ça bloque. Et si c'est eux qui ont échoué, il faut qu'ils le disent, ou c'est le gouvernement qui a échoué, il faudrait qu'ils le disent pour que la population sache à quel niveau se trouveraient les blocages. Il y a un autre problème, madame, où les députés devraient faire des enquêtes, c'est la question des migrants, des citoyens qui disent congolais, qui migrent du sud vers le nord, et on ne sait pas s'ils sont déjà morts pour les massacres, on ne sait pas s'ils vivent encore. Ils disaient qu'ils sont à la recherche des arabes, mais malheureusement,
Edgar Matesso, votre ligne téléphonique pose problème. La réalisation, on va essayer de vous rappeler pour voir comment on peut améliorer la ligne téléphonique. Honorable Nzangi Muindo, je rappelle que vous êtes député national, élu du Nord Kivu et cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamuka. Vous avez suivi les propos de l'évêque du diocèse catholique de Butembo, Beni, qui s'est dit préoccupé par la résurgence ces dernières semaines de tueries des civils dans la région de Beni et des ce qu'il qualifie d'incapacité des députés et sénateurs de Beni Boutembe Lubero de porter la voix de la population de la région face à cette situation.
Oui, nous avons suivi et nous, comme députés nationaux élus du Nord Kivu, nous comprenons en fait la colère de l'évêque, qui est la colère de toute la population qui aimerait voir cette situation être améliorée. Il faut dire que quand même, ça vient de faire trop longtemps, ça fait maintenant 6 ans, on va vers 7 ans, pendant que la population est massacrée au Nord Kivu et à Beni particulièrement. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Les députés nationaux du Nord Kivu sont parmi les plus vaillants députés à l'Assemblée nationale. Ils ont le prouvé par quelque chose que, pour vous que je connais le massacre de Beni. Les députés du Nord Kivu, notamment la partie Nord, ont été parmi les derniers à être élus, proclamés en avril. Ils ont été à l'Assemblée nationale en mai. Mais depuis qu'ils sont là, ils ne traitent que cette question de Beni. Les députés ont rencontré à 3 reprises le chef de l'État pour lui parler de la situation de Beni. Les députés ont rencontré à 7 reprises le ministre de la Défense pour lui parler de la situation. Les députés ont rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Ils ont rencontré aussi le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Les députés ont été à plusieurs reprises avec le chef d'état-major de l'armée. Les députés ont reçu à 2 reprises le ministre de la Défense au sein de la commission sur demande expresse des députés. Et puis, ils ont rencontré leur bureau pour essayer de voir comment la situation pouvait marcher. Les résultats de ce qu'ils ont fait comme travail, c'est que les opérations ont été lassées dans la région. Et comme vous le savez, les députés sont venus à Beni à 3 reprises avec une grande délégation de l'armée pour préparer les opérations. Les députés ont obtenu le changement du commandement des opérations à Beni. Les députés ont obtenu la sortie des forêts de plusieurs groupes armés locaux qui sont cantonnés, qui aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement ne sait pas les accompagner. Les députés ont obtenu l'accompagnement réel de la population pour l'opération dite de grande envergure qui avait été lancée dans la région. Je voudrais aussi rassurer
malgré tout ce que vous évoquez, la situation reste inchangée. La sécurité perdure, les gens continuent d'être tués.
Je vais y arriver. Je voulais dire que les députés ont aussi rencontré le cardinal et ils l'ont convaincu d'effectuer une mission à Beni, ce qui a été fait. Et le cardinal a porté à haut la voix qui ne pouvait peut-être pas être audible sur les députés. Les députés ont installé une mission de suivi permanent des opérations à Beni. Et à travers cette mission, les députés ont en fait fait un diagnostic complet de ce qui ne marchait pas au sein des forces armées de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les députés sont beaucoup plus outillés qu'ils ne l'étaient hier. Donc, je voudrais vous dire que les députés ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et pour conclure cette partie de ce que les députés ont fait, aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons en fait compris, les blocages dont a parlé Edgar Matesso, nous avons initié une motion de défiance contre le ministre de la Défense qui va être déposé au début de la semaine prochaine pour qu'il vienne finalement répondre de ça puisque ce que nous pouvons donner comme conclusion, c'est qu'il s'observe une incompétence notoire dans les chefs de celui qui est censé coordonner les opérations de défense sur le terrain qui est le ministre de la Défense. Donc ça c'est au chapitre de toutes les actions qu'un député a pu mener par rapport à ce qu'ils ont comme mission. Ce que l'opinion doit retenir, ce ne sont pas les députés qui doivent prendre les armes pour se battre. Le rôle des députés se limite effectivement à faire pression, à faire entendre la voix de la population au niveau des institutions et éventuellement à faire des sanctions de ce que nous sommes en train de faire. Mais sur le terrain, malheureusement, il s'observe que malgré tout ce qu'on a tenté de faire, la situation reste comme telle. Et nous l'avions déjà dit à son temps que l'armée a lancé des opérations, les EDF se sont cachés, les opérations qui ont été là n'ont pas détruit toutes les capacités opérationnelles de ces tueurs et ces assassins. Les complicités à l'intérieur de l'armée n'ont pas été correctement décelées, ce qui fait que les rebelles bénéficieraient effectivement de certaines complicités qui leur permettent d'avoir un approvisionnement en armes qui leur permet aujourd'hui d'être encore opérationnel. Donc, la situation reste celle-là.
Complicité à quel niveau?
Oui.
Vous parlez de complicité à quel niveau?
À tous les niveaux, les niveaux inférieurs, les niveaux et les niveaux supérieurs. Nous avons demandé comme députés qu'il y ait des enquêtes sérieuses pour déceler tous ceux qui pouvaient être complices de l'intérieur. Les enquêtes qui ont été menées ont été superficielles. Le deuxième problème, c'est que cette guerre est devenue aussi un business. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent sorti des poches des trésors publics pour essayer de mettre fin à cette question. La gestion de l'argent des opérations n'a pas été aussi transparente. Les députés ont demandé qu'il y ait des enquêtes précises pour savoir comment cet argent a été utilisé sur le terrain. Puisque nous l'avions dénoncé en son temps, que pendant que les opérations commençaient, nous avons vu une vingtaine de généraux venir s'établir à Beni. Après que l'argent soit terminé, tous sont repartis et la situation est restée la même. Nous avons exigé qu'il y ait des enquêtes.
Merci.
On nous a présenté quelques généraux qui auraient détruit l'argent.
Mwindo Nzangi, est-ce qu'on peut, vous pouvez me suivre s'il vous plaît. Merci, on vous garde encore dans cette émission. On va donner la parole à Didier Bitaki, qui est ancien membre des groupes armés au Kivu. Il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, comment vous analysez-vous cette résurgence de l'insécurité à Beni, malgré tous les efforts fournis par la hiérarchie, par le chef de l'État, malgré le changement de commandement, malgré le renfort des troupes à Beni, au Nord Kivu, la situation reste inchangée, l'insécurité perdure.
Je voudrais d'abord rappeler que il n'y a pas résurgence de la situation de l'insécurité à Beni. Ce qu'il faut retenir est que cette situation est quasi permanente et n'a pas commencé aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de résurgence, c'est comme si elle s'était arrêtée à un certain moment pour reprendre. C'est continuel depuis que ces massacres ont commencé. Deuxième chose, je soutiens d'abord la sortie médiatique, disons les propos de l'archevêque Melchisedek Sikuli, du fait de faire porter la responsabilité de l'insécurité quasi permanente à Beni sur la défaillance des élus, des députés élus de Beni. Qu'est-ce qu'il faut, il faut faire à ce niveau? C'est d'abord, le député devrait constater que la situation n'a pas changé et que les dirigeants n'ont pas manifesté la volonté réelle de pouvoir en finir et que, en conséquence, il devrait même boycotter certaines séances au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que les gens qui meurent, ce sont leurs électeurs qui meurent. Alors, je ne sais pas, ils les représentent et qui dans les efforts qu'ils disent fournir pour défendre la population, malheureusement. En deuxième lieu, il faut constater ensuite que ce ne sont pas malheureusement les députés qui prennent des décisions opérationnelles. Les décisions opérationnelles sont prises par le ministre de la Défense. Au niveau où se situe le problème, ce n'est pas entre les députés et la population ou entre les députés et l'armée. Le problème se situe entre le gouvernement, le président de la République et l'armée. Vous savez, dès lors qu'on a déstructuré l'armée, donc le commandement est confié, je ne sais pas, à une petite catégorie, une oligarchie qui s'occupe et des déploiements, et du choix des officiers, et du choix des unités à intervenir sur le terrain, on ne peut pas aboutir à un résultat. Je me rappelle que on a encore débattu ensemble avec le lit de Béni, l'honorable Paul Mouindo sur cette question lorsque je disais que le commandement est à la base du problème de Béni. Quand on a envoyé le général Itzaligonza à Béni, avec le général Chirimwami, j'avais dit que ce général ne méritait pas de diriger ses opérations au niveau de Béni, tout simplement parce que Itzaligonza est d'abord ici d'un groupe armé, et ce groupe armé existe encore en Ituri. Le commandant des opérations à Béni ne vit même pas à Béni, il se trouve en Ituri, à Bounia, il fait ses affaires, et il laisse la population périr. Mais qui les punira? Personne, tout simplement parce que il est lié à ces réseaux-là qui décident sur la situation et la survie des militaires au niveau des opérations. Ce que moi je pense, est que la hiérarchie militaire, et c'est le chef de l'État qui est en premier lieu concerné, devrait consulter par contre le ministre le commandant des forces terrestres, ensemble avec le ministre de la Défense. En ce moment-là, parce que c'est le commandant des forces terrestres qui est censé gérer cette situation sur le terrain. Malheureusement, c'est confié à une unité parce que tel est ami à tel, on fera tel, et puis on laisse celui qui devait s'en occuper rester dans son bureau, observer ce qui se passe sur son secteur opérationnel. Donc moi, je pense que le problème est structurel au niveau de l'armée. En second lieu, les députés n'ont pas fait leur travail. Quoi qu'ils disent, ils ont échoué parce qu'ils... S'il fallait même démissionner de l'Assemblée nationale, on devait déposer le tablier, on rentre à mourir ensemble avec son peuple. C'est ça le rôle d'un patriote. C'est ça le rôle de quelqu'un qui aime
ses électeurs. Alors, Didier Bitaki, lorsque vous dites que les députés n'ont pas fait leur travail, ça veut dire quoi concrètement? Vous en
faites souhaiter
que les députés
n'ont pas fait leur travail à cette heure, en ces termes, je vais être clair. Les députés n'ont pas fait leur travail parce que tout simplement, lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait blocage ou que les choses n'évoluaient pas malgré leurs recommandations, c'est immédiatement qu'ils devaient initier une motion de défiance à la fois contre le ministre de la Défense et interpeller le chef d'état-major général pour qu'il s'explique sur les possibilités qu'ils ont à mettre fin à la persistance de l'insécurité. En plus, ces généraux ici dont nous parlons, ils ont déclaré qu'il y avait plus de groupes armés, les ADF étaient complètement déçus, et que c'était des opérations de ratissage. Mais aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes tuées depuis qu'ils ont lancé ces fameuses opérations d'envergure. Mais le résultat contredit les déclarations qu'ils font. On ne peut pas aller en guerre tout en annonçant qu'on a défini tel plan. Vous allez à la radio, vous médiatisez, on filme et puis on lance, je ne sais pas, des vidéos pour dire c'est ça les opérations. Vous alertez votre ennemi. Alors, comment est-ce que vous allez continuer? En tout cas, pour moi, je pense que la responsabilité incombe à toutes les parties impliquées dans cette question, et les députés ont failli. Ils auraient dû réagir bien avant. Le ministre de la Défense a échoué parce que cette situation ici a commencé pendant que lui était ministre de la Défense en 2015. C'est là que les gens mouraient chaque jour. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui est revenu à la Défense. La situation n'a jamais changé. Donc pourquoi est-ce qu'on doit faire recours à quelqu'un qui a échoué? C'est pour cette raison que j'ai dit que le président de la République devrait revoir en tout cas ses calculs et désigner la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, au lieu de laisser cette situation pourrir comme elle se présente actuellement, et commencer à faire porter la responsabilité à des personnes inappropriées qui ne pouvaient pas l'assumer.
Merci Didier Bitaki. Edgar Matesso, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois que nous avons perdu Edgar Matesso. Encore une fois, la réalisation va essayer de le retrouver. Honorable Nzangi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient d'Isangi dans la province de la Tchopo.
Depuis Isangi, province de la Tchopo, Gaston Bilambo, tout en présentant mes sincères condoléances à toutes les familles frappées par ces atrocités, j'estime que les propos de Monseigneur Paluku est une forme de la voix de son roi. Il montre clairement que selon les lois de notre pays, chaque circonscription électorale aux électeurs élus qui doivent nécessairement présenter les trois problèmes qui préoccupent leurs attitudes respectives. Mais seulement le prélat catholique et la société civile doivent comprendre qu'au Congo, nous avons une classe politique qui se laisse préoccuper par les intérêts égoïstes. C'est-à-dire que nos députés et sénateurs ne se fassent pas redevables envers le peuple, mais plutôt envers leurs appartenances politiques. Ce qui pousse certaines opinions à croire que les élections organisées par la CENI en 2018 n'ont pas vraiment bénéficié des vraies voix du peuple. Je pense à mon humble avis que Ce qui pouvait apaiser les esprits des Congolais serait de voir le président de la République et son gouvernement s'impliquer totalement à cette affaire malgré plusieurs situations qui gangrènent notre pays. Car trop et trop avec cette, la situation de l'Est.
Mouindo Nzangi, comment vous réagissez à cette, au propos de cet auditeur?
Oui, vous savez, quand la population s'exclame, elle a raison de dire, puisque en principe, on ne peut pas dire que les gens sont en train de bien faire leur travail lorsque la population continue à mourir. Mais je le répète, que les députés ont fait ce qu'ils ont jugé bon d'être fait. Jusque-là, les députés ont agi selon les missions qui leur sont réservées par les lois de la République et par la Constitution. Aujourd'hui, nous en sommes à la dernière étape, celle d'une motion de défiance contre le ministre de la Défense, puisqu'on trouve qu'il a failli. Je suis tout à fait d'accord avec toute l'analyse de mon ami Didier Itaki. Nous partageons avec lui cette analyse. En fait, la situation, elle est mal gérée sur le terrain. Mais il faut ajouter qu'il y a des problèmes structurels graves à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur des forces de défense. Aujourd'hui, nous les constatons, nous tous. Nous l'avons constaté depuis trop longtemps, mais tout le monde le comprend que nous avons aujourd'hui des faibles capacités de défense dans le pays. Donc, on doit repenser la stratégie de la défense pour que notre armée soit capable de défendre réellement la population. Sinon, on va avoir des problèmes partout. Aujourd'hui, on parle de Beni, mais je peux vous dire, par exemple, que la question de Goma, elle est aussi la même. La question de l'Ituri, elle est encore aujourd'hui beaucoup plus pire. La situation au sud Kivu, elle est là. Donc, vous trouvez que tant que notre système de défense va rester un système effectivement, qui est basé sur une certaine oligarchie, comme Didier Itaki l'a dit, qui s'occupe de tout, mais qui n'est basé que sur les pécuniaires, ça restera un problème très difficile à régler. Mais je reviens sur la situation de Beni. La situation, elle est tellement alarmante qu'aujourd'hui, la réflexion que nous devons avoir, nous tous ensemble, les vêtres comme nous les députés, c'est de dire qu'est-ce qui doit encore être fait, qui n'a pas encore été fait jusque-là, pour que nous puissions effectivement mettre fin à cette situation de massacre. C'est très important que nous puissions y réfléchir tous ensemble. C'est vrai que nous, en tant que députés, moi j'accepte les reproches qu'on peut nous faire, puisque effectivement la population attend. Mais je voudrais quand même rappeler que nous sommes parmi les députés les plus redoutables de l'Assemblée nationale, et en tant que députés du Nord Kivu, nous sommes tout le temps sur le terrain, là où il y a les sécurités, pour parler avec la population, agir ensemble avec la population. Et ce que nous faisons, c'est en accord avec la population.
Merci Mouindo Nzangi. On me signale que Edgar Matesso est en ligne. On va prendre pour vous, Edgar Matesso, cette réaction qui nous vient de Kalemi.
Je suis Gilbert Mutambila depuis la ville de Kalemi, au Tanganyika. Face à tout ce que nous connaissons à propos de l'insécurité à Beni, et sachant que nous sommes dans un pays dont les dirigeants se vantent toujours de notre souveraineté, il n'y a plus de doute à affirmer que nous avons une armée incapable d'assurer la défense de son territoire. Cette incapacité s'est traduite par les échecs à répétition de nos phares d'essai à toutes les opérations initiées contre l'ennemi. Et je dirais que la faute n'incombe pas aux militaires directement, mais plutôt à leur hiérarchie, donc au gouvernement. Nous constatons malheureusement que les élus de la région et le gouvernement et les chefs coutumiers tous ne fournissent pas d'efforts sérieux pour amener la paix dans ce coin du pays. Pour rétablir la paix à Beni, je propose que tous les notables du Nord Kivu se réunissent dans une sorte de forum afin d'étudier profondément les causes de cette tuerie, identifier les tenants et les aboutissants autour de cette insécurité et enfin proposer des pistes de solutions à soumettre au gouvernement.
Edgar Matesso, réaction.
Oui, en fait, je viens de comprendre la préoccupation de mon compatriote Gilbert. Oui, en fait, quelque part, il a raison de donner toutes ses préoccupations. Mais il faut d'abord comprendre que tout au départ, les députés sont tombés dans les pièges. Lorsqu'ils sont entrés aussi dans le folklore, en venant avec les ministres, ils commençaient à battre campagne, ils commencent à attaquer l'ennemi. Pendant que l'ennemi était en train de suivre tout cela sur les voies médiatiques, et il a eu le temps de se réorganiser et commencer maintenant à créer le fiasco et à continuer à tuer les gens comme pas possible, comme cela n'avait jamais été fait. Et nous pensons que jusqu'à présent, Il est vrai que l'armée congolaise donne l'impression d'avoir échoué. Mais en réalité, l'armée congolaise n'est même pas faible comme elle le croirait. Nous continuons à penser que si les députés usent des outils de prérogatives qui leur sont reconnus par la Constitution, il y a encore moyen d'espérer à quelque chose. Sauf si cela pouvait échouer, alors qu'on pouvait recourir à une force étrangère, comme nous l'avons toujours proposé, une force du genre Artemis. Nous pensons que les députés peuvent encore procéder par une grande pression sur le ministre de l'Intérieur pour que l'on gère la question des policiers qui ont longtemps œuvré dans la région, une pression sur le ministère de la Défense pour qu'on gère la question de l'état-major, du commandement de cette armée, de ces opérations, une grande pression sur le ministre de la Justice pour que tous ceux qui sont arrêtés comme présumés ADEF ou tous les autres tueurs, les criminels de la région, soient déférés devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes. Une grande pression sur le ministère de le premier ministre pour que l'on puisse approuver, pour qu'elle puisse définir un programme spécial sur la gestion de la guerre au niveau de Béni. C'est lorsque tous ces aspects peuvent échouer qu'on pourrait revenir à la question de remplacer toute l'armée qui est à Béni et remplacer tous les policiers, parce que nous avons toujours demandé que l'on relève tous les policiers qui ont longtemps œuvré dans la région, qu'on relève tous les militaires qui ont longtemps œuvré dans la région, mais malheureusement, toutes les relèves qui ont été faites jusque-là n'ont été que des mascarades. On a toujours trompé le peuple et on donne l'impression d'avoir fait ça. Et pourtant, les députés peuvent mener une enquête parlementaire sur tous ces mouvements des militaires, sur la gestion, les fonds alloués à cette guerre, parce qu'on a rencontré même sur les fronts certains militaires qui donnent l'impression des enfants mal nourris, parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien gérés sur les fronts. Et ça veut dire, ensemble, nous pouvons encore faire quelque chose. Si les députés s'y mettent, nous avons toujours les prérogatives, les moyens et même la disponibilité de les y accompagner. Mais lorsqu'ils laissent les autorités libres, c'est alors que la situation continuera à s'empirer. Et voilà, alors nous continuons à subir les conséquences de ces affres de la guerre et les gens continuent à mourir. Donc, la pression, alors, la surveillance de ces militaires, la relève de ces militaires pourra aider quelque temps.
Alors, Edgar Matesso, ce sont là les propositions que vous faites pour essayer de mettre fin à cette situation dans la région de Béni. On va encore vous garder pour votre dernier mot, mais en attendant, on va prendre cette autre réaction qui nous vient de Kananga pour Didier Bitaki.
Paul Morales Kapemba depuis Kananga au Kasaï Central. Il a totalement raison, car le député, le sénateur et l'État congolais néglige ces grands problèmes et s'intéresse seulement aux problèmes de polémique et déclarations inutiles sans qu'on dise, on tue le paisible citoyen qui fonde de vous sénateur et député. Quelle est alors votre place au Parlement? C'est une honte pour un pays avec une armée. Le député et le sénateur devraient faire un bloc avec les citoyens pour dénoncer les conflits et donner la force à l'État d'agir pour mettre fin au plus vite que d'être là pour polémiques et discussions sans importance.
Didier Bitaki, cet auditeur de Kananga vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure. Finalement, quelle serait la meilleure solution pour mettre fin à cette situation d'insécurité à Béni?
Tout d'abord, madame, merci pour la parole. Mais tout d'abord, il faut relever que le problème actuel de l'insécurité au Congo relève de la politique générale du gouvernement, la politique générale des défenses et de la sécurité du gouvernement. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des parlementaires, même si, en quelque sorte, ils ont échoué dans leur mission régalienne vis-à-vis de leurs électeurs. Ça, il faut reconnaître. mais ça relève de l'incompétence du gouvernement. Je vais vous le rappeler. Nous avons les Mbororo au nord Kivu, disons, dans les Bas-Ouélé. Là, il y a l'armée sud-soudanaise, il y a l'armée centrafricaine, il y a des rebelles centrafricains qui sont là. Ça, c'est au niveau de la frontière. Quand vous allez dans l'Ituri, il y a l'armée sud-soudanaise qui se déploie et avance vers l'intérieur de la République démocratique du Congo. Au nord Kivu, vous avez les ADF qui sont là, les FDLR sont là. Il y a un bataillon de l'armée rwandaise qui se trouve sur le territoire congolais. Au sud de Kivu, vous avez le militaire burundais qui opère dans les hauts plateaux. Vous allez vers le Tanganyika, l'armée zambienne a pénétré, tout le monde est laissé, a pénétré sur, à l'intérieur du territoire congolais. Quand vous prenez la question de l'Angola avec la RDC, jusqu'à présent, nous n'avons jamais recouvert l'ensemble du territoire national parce qu'il y a des parties occupées. Donc, le problème relève de la politique générale du gouvernement. Est-ce que ce gouvernement est capable d'assurer la défense et la sécurité du territoire? Ça, c'est le grand problème que nous avons. Le ministre de la Défense, celui de l'Intérieur, devrait être interpellé ou éjecté directement du gouvernement. Parce que généralement, ils ont failli à tous les niveaux. Deuxième chose, l'armée elle-même, les militaires sont formés, ils sont puissants, ils sont conscients. D'ailleurs, je dirais que l'armée congolaise est l'armée la plus disciplinée au monde. Ces militaires ne sont pas payés, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas vêtus. Ils vivent comme des animaux, mais ils continuent à aller se battre en face d'un ennemi qu'ils ne connaissent pas. Mais dans tout ça, on considère que ce sont les commandants parce que les commandants vivent mieux, ils roulent carrosse, ils ont des moyens, ils vivent comme s'ils étaient sur une autre planète. Mais leurs soldats souffrent. Comment est-ce que le militaire ira au front se battre dès lors qu'il vit dans des conditions inhumaines? En plus, il y a impunité. C'est le ministre de la Défense qui devrait saisir celui de la justice sur des cas éventuels de détournement de moyens militaires, d'indiscipline, ainsi de suite. Mais lui reste calme, il ne fait rien. On a isolé ceux qui devaient s'occuper du problème de la sécurité à l'intérieur des provinces en isolant le commandant régional qui n'a plus rien à faire. Il est resté un administratif et séparé dans toutes les régions militaires de la République. Comment allons-nous réussir à assurer la défense et la sécurité du territoire dans pareilles conditions? Donc moi je pense humblement qu'il faut remettre les choses sur les rails. Hein? La question du clientélisme et sur des appartenances politiques a des raisons, je ne sais lesquelles. J'imagine que pour la question de la défense, ça concerne tout le monde, qu'il soit de l'opposition comme de la majorité, avec cette histoire des slogans du fameux KHFCC, tout se passe par là. Même celui qui ne sait pas ce qu'il devrait faire dans tel secteur, parce qu'il a à Paris, il a appartenu à telle ou telle autre organisation, on lui confie une responsabilité qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne saura gérer. La conséquence, c'est qu'on ne stabilise pas le pays et tout le monde est en train de pleurer aujourd'hui. J'imagine que le président suivra cette émission et peut-être qu'il pourra par la suite prendre une décision devant permettre à ce que les choses aillent dans la voie la plus claire où tout le monde trouvera son compte.
Merci Didier Bitaki pour votre conclusion. Edgar Pluto Mwindo Nzangi, député national élu de Nord Kivu et cadre du parti politique MS, membre de la coalition Lamuka. En guise de conclusion, c'est vrai qu'on a posé cette question plusieurs fois, que ça pourrait établir la paix à Beni. Qu'est-ce que vous proposez de plus pour que la paix puisse revenir à Beni? Ça sera votre conclusion.
Oui, à conclure, je veux dire que la question de Beni, c'est une question militaire. Et le commandant à chef de l'armée, c'est le chef de l'État. Je crois que le chef de l'État aujourd'hui doit comprendre que ce que nous lui avions dit déjà dès le début, qu'en mettant les mêmes gens qui ont échoué pendant trop longtemps pour la même question, il ne va pas amener une nouvelle innovation. Et donc, je crois que le chef de l'État doit reprendre cette question en main, proposer une solution militaire adaptée à la situation de Beni qui demanderait effectivement l'utilisation des moyens aériens beaucoup plus intensifs pour cette question-là. Essayer de tout faire.
Merci.
Pour que tous ceux qui sont impliqués dans la question de complicité soient écartés. Faire une enquête sérieuse pour savoir le business de guerre des officiers. Tous ceux qui ont détourné les moyens destinés aux opérations doivent être arrêtés et doivent être écartés effectivement de la scène de commandement militaire. Mais aussi,
Merci, Mouindo Nzangi.
Merci, Mouindo Nzangi.
Votre conclusion en une phrase.
Oui,
En conclusion, je voudrais dire que la solution à Beni, c'est vraiment la pression sur les gouvernements. Et comme les co-débatteurs venaient de le montrer, c'est un gouvernement qui s'est révélé incapable avec un déficit de responsabilité dans la gestion de cette guerre. Et on ne peut trouver la solution que lorsque les députés ont mis de la pression sur ces gouvernements. Malheureusement, l'honorable Moïse n'a pas voulu le dire ici. Ils sont en train de gérer la question avec des députés qui ont remplacé ceux qui ont été réellement élus par la population à cause des invalidations injustes. Et justement, ces députés qui ont été nommés ne peuvent pas bien faire pression sur ces gouvernements parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre à la population. Mais malheureusement, c'est cette situation qui nous amène dans cette situation que nous ne savons plus gérer et les gens continuent à mourir. Et donc, le gouvernement doit s'assumer, mais aussi les députés doivent aussi s'assumer parce que le peuple les regarde et au retour, il y a des élections qui les attendent. On connaît qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Et la question demeure, lorsqu'ils vont revenir pour la campagne, on pourra demander à chacun de rendre compte pour ce qu'il a fait sur la question de la sécurité du Nord Kivu.
Merci Edgar Matesso, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Jacques Bossenga était à la mise en onde, supervision à Tel Gonjo, présentation et coordination. Kéline Couté, prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.